Chapitre 5 Le marché. Ainsi qu'elle l'avait déclaré à Juliette, la baronne Merloup était descendue non pas dans un palace ni dans un hôtel de deuxième catégorie, mais dans une simple maison meublée de la rue Gubernatis. La baronne avait pour principe de ne déployer de faste que lorsque cela était absolument nécessaire. Très économe, ainsi qu'elle le disait, elle détestait jeter l'argent par les fenêtres. Néanmoins, afin d'être bien sûre que Juliette ne lui fausserait pas compagnie, elle monta avec celle-ci dans une voiture de place qui stationnait le long du trottoir et elle se fit directement conduire à son hôtel. Toutes deux gagnèrent une chambre très simple mais assez confortable. Une fois là, la môme aux yeux bleus se laissa tomber sur un siège. On la sentait lasse, meurtrie, désabusée. La baronne se dit « Maintenant je la tiens, cette fille ne sera bientôt plus qu'un pantin entre mes mains. » Elle enleva sa mantille et sa sortie de bal et elle s'approcha de Juliette. Celle-ci avait tiré de son sac un étui à cigarettes, en avait pris une et l'avait allumée. Puis, indifférente en apparence, elle avait tiré quelques bouffées. « Ma petite Juliette, attaquait la prêteuse à gages, j'espère maintenant que vous allez vous montrer raisonnable. »« Oh, cela dépend de ce que vous allez m'offrir, répondait la fille naturelle du marquis de Montgomery. La seule chose que je vous demande, c'est de me parler en toute franchise. Mais c'est ce que je me proposais, préférablement de faire. Alors faites-le, allez-y. » La prêteuse déclarait : Vous avez été remarqué, sans vous en douter, par un homme excessivement riche. Tiens, on dirait que vous me tirez les cartes, soulignait Juliette. « Non, ne plaisantez pas, je vous le répète, c'est très sérieux. » « Alors, ironisait la môme aux yeux bleus, ce prince charmant vous a chargé de me demander ma main, la droite ou la gauche ?»« Qui sait, les yeux peut-être. Tiens, tiens, ça c'est drôle. Et où m'a-t-il repéré, ce roi de la galette ?» Madame Merloup, qui avait cependant préparé son discours d'avance, répondit sans la moindre hésitation. « Bien ici, l'autre jour, étant de passage à Nice, il vous a vu sur la promenade des Anglais, assis sur un banc et pleurant. Il s'est approché de vous et a voulu vous parler avec toute la pitié que lui inspirait votre détresse. Mais vous lui avez répondu de telle manière qu'il s'est retiré, désolé de n'avoir pas réussi à vous prouver le vif intérêt qu'il vous porte. Ah ? Ponctuait Juliette méfiante. Et après ? Eh bien, ce monsieur est rentré ensuite à Paris. Il m'a raconté son aventure, et de la description qu'il m'a faite de la jeune personne qui avait ainsi attiré son attention, je vous ai tout de suite reconnu. Bizarre, bizarre. Murmurait la môme aux yeux bleus. Alors, poursuivait l'envoyé de Jacques Barrette, je suis tout de suite aperçu que vous aviez produit sur mon ami une impression extraordinaire. Le coup de foudre, quoi. Mieux que cela. Quoi donc? Je vais vous l'expliquer. Bon, c'est encore beaucoup plus extraordinaire que vous ne l'imaginez. Ce personnage dont je vous parle est un russe, un très grand seigneur russe. Alors il doit être fauché. Non, car avant la révolution qui a bouleversé son pays, il avait pris la sage précaution de placer toute sa fortune en Amérique. Non seulement il l'a conservée intacte, mais il a encore réussi à l'agrandir. On dit même à la quintupler. Tout ce dont je suis sûr, c'est que, sans être milliardaire, il peut rivaliser avec certains rois d'Amérique qui sont, d'ailleurs, ses meilleurs amis. « Oui, vous avez raison, » déclarait Juliette. « Cela commence à devenir intéressant. Mais par exemple, une chose que je ne peux pas encore réussir à encaisser, c'est que votre prince russe soit pris d'un béguin fou pour moi, uniquement parce qu'il m'a vu en train de pleurer sur un banc de la promenade des Anglais, et que je lui ai envoyé un paquet de sottises à la figure. La baronne Merloup, prenant un air inspiré, répliquait: Oh, on voit bien que vous ne connaissez pas l'âme slave. Oh, vous savez, moi, les âmes, qu'elles soient slaves, anglo-saxonnes, italiennes, espagnoles ou françaises, je les mets toutes dans le même panier. Elles ne valent pas cher au marché du monde. Mais vous dites cela parce que vous êtes aigri. Je vous assure, au contraire, qu'il existe encore ici-bas des cœurs tout pétris d'enthousiasme et de générosité. Et le cœur du prince Sverdlovsk est de cela. Oh, il s'appelle Seliverstov. Drôle de nom, je ne connais pas. Bon, peu importe le nom. Il ne vaut d'ailleurs que par l'homme qui le porte, et l'homme n'est pas seulement un de ces grands seigneurs qui ont gardé en eux la tradition ancestrale, mais qui ont su se moderniser, s'adapter au temps où ils le virent. Et s'efforcer surtout de semer autour d'eux du bonheur. J'ajouterai que le prince Dimitri. Ah, il s'appelle Dimitri aussi. Oui, ma petite. Oh, j'aime mieux cela, c'est plus facile à retenir. Alors, Dimitri, qu'est-ce qu'il a encore fait, Dimitri? C'est un disciple de Tolstoï. Ah oui, l'écrivain russe, l'auteur d'Anna Karénine. Et aussi de résurrection, appuyait l'entremetteuse. Résurrection, répétait la môme aux yeux bleus. Oui, j'ai lu cela autrefois. C'est un beau livre. Autant qu'il m'en souvient, c'est l'histoire d'une fille qui est tombée très bas après avoir été abandonnée par un premier amant. Celui-ci la retrouve dans une prison. Elle comparaît devant la justice, on la condamne à la déportation. Alors le type l'emmène, veut la réhabiliter, et puis. Oh, je me rappelle plus très bien. Et d'un air étrange, Juliette scanda: Est-ce que lui aussi voudrait me refaire une âme? Oui, répondait sans hésiter l'envoyé de Sir Jack Sorette. En voilà une idée, ricana la ric dévoyée. Voyons, mais c'est une idée très noble, très belle. C'est possible, reprit Juliette. C'est bon, je crains bien maintenant que ce soit trop tard. Mais trop tard, pourquoi? Oh, parce que je ne me sens aucun amour de la vie. Je suis tellement dégoûté de tout. Mais il ne faut pas parler ainsi. Et puis, cet homme, est-ce qu'il sait bien jusqu'où je suis tombé? Oui, il le sait. Eh bien, il a du courage. Enfin, tout de même, c'est peut-être pour moi, comme vous le dites, une occasion de me refaire une existence, et surtout sortir de la boue dans laquelle je m'enlise. Au fond, voyez-vous, Madame Merloup, je ne suis pas une mauvaise fille. Savez-vous ce qui m'a rendu ce que je suis? Oh, ce n'est pas parce que je suis une fille naturelle, parce que j'ai perdu ma mère trop jeune, parce que je n'ai jamais connu mon père, parce que je n'ai jamais eu de famille, parce que je suis restée toute seule à 17 ans dans la vie. Non, tout cela, ce n'est pas la vraie raison de ma déchéance. Il y en a une autre, c'est la paresse. Vous qui m'avez connue toute petite, vous savez bien que je n'ai jamais voulu travailler, et que pour me faire apprendre mon métier de dactylo, cela a été, comme on dit, la croix et la bannière. J'étais né pour ne rien faire, pour vivre dans l'oisiveté, dans le bien-être, sans souci du lendemain, sans autre guide que ma fantaisie. Oui, j'étais né animal de luxe. Je vous ai entendu le dire à maman. Alors, quand j'ai été obligé de gagner ma vie, Cela m'a été tellement pénible que je me suis donné au premier venu, à celui qui passait, et c'est de là que date toute ma misère. J'étais mal tombé. Oui, j'avais rencontré un être abominable qui m'a gangrené moralement et fait de moi une fille, oui, une fille de trottoir, sans que j'aie la force, la volonté, le courage de réagir. Voilà tout, voilà la vérité. Alors, tout de même, ce que vous me dites, cela me donne à réfléchir. Enfin, ma petite, tu vois, je ne vois rien encore. Je pense, et c'est déjà quelque chose de penser. Penser à l'avenir, quand on a eu pendant si longtemps le cerveau vide et comme rempli de ténèbres. Elle se tut, alluma une autre cigarette, puis d'une voix un peu dolente, elle demanda à Madame Merlou, qui se félicitait du tour qu'avait pris l'entretien, quel âge a-t-il, votre prince? 35 ans. Il est beau garçon, très beau. Et il est si riche que cela, colossalement. La môme aux yeux bleus se tut. Sans doute hésitait-elle encore à prendre une décision. Elle reprit bientôt, d'une voix toujours un peu lasse et désabusée, c'est tellement étonnant que j'ose pas croire que c'est vrai. Madame Merlou conseillait, mais laissez-vous donc aller à la joie que je vous apporte. C'est bien votre tour d'être un peu heureuse, et vous le serez certainement si toutefois vous êtes raisonnable et si rompant résolument avec le passé, si l'oubliant tout à fait, vous donnez à celui qui m'envoie vers vous toutes les satisfactions qu'il peut vous réclamer en échange de l'immense bonheur qu'il rêve de vous donner. Il est ici, ce Dimitri? Demanda Juliette. Non, il est à Paris. Mais si vous y consentez, de demain, nous pourrons prendre le rapide. La môme aux yeux bleus ferma à demi les paupières et elle abandonna sa cigarette qui tomba sur le parquet. Elle demeura, les yeux mi-clos, comme perdue dans un ronge-songe qui l'entraînait, sans doute vers des horizons nouveaux que la baronne venait de lui présenter. La prêteuse à gages comprit que c'était le moment pour elle d'enlever l'affaire et, s'emparant de la main de Juliette, affectueuse presque maternelle, elle reprit: Allons, ma petite, laissez-vous guider par moi, et vous verrez dans très peu de temps combien vous aurez lieu de vous en réjouir. Dès à présent, pour vous, le passé doit être chose morte. Figurez-vous que vous avez retrouvé non seulement un ami qui doit vous rendre la plus heureuse des femmes, mais encore une seconde maman qui sera toujours là pour vous protéger et vous prodiguer ses soins et ses conseils. Dès à présent, ma chère enfant, je ne dirai pas que vous m'appartenez, moi, car je sais combien vous êtes jalouse de votre liberté, et pour rien au monde je ne voudrais y porter la moindre atteinte. Mais pourtant, je vous en prie, laissez-moi vous considérer un peu, et même beaucoup, comme ma fille. Je vous ai connue si petite, et puis je me suis toujours sentie attirée vers vous par une instinctive tendresse. Enfin, je n'ai pas d'enfant, je suis seule au monde, et désormais il me semble que si vous voulez bien être un peu mon enfant, je vais avoir un tout but dans la vie, ce qui me manquait jusqu'alors et qui n'était pas sans me causer beaucoup de tristesse. La môme aux yeux bleus ne lui répondait toujours pas. L'entremetteuse, que ce silence commençait à inquiéter, poursuivait de plus en plus insinuante. Vous allez rester avec moi, n'est-ce pas? Il y a justement une chambre qui communique avec la mienne, et je vais vous la donner. Demain matin, nous irons préparer vos bagages. Oh, mes bagages! répondit Juliette en haussant les épaules. Ou bien, continuait Madame Merlou, faire les achats nécessaires. Oh, je serais trop heureuse de vous faire une avance. Allez, embrassez-moi, ma belle. C'est entendu, n'est-ce pas? Je puis compter absolument sur vous. Brusquement, la môme aux yeux bleus se relevait et déclarait d'une voix brève, impérieuse. Eh bien, je veux bien partir avec vous, retrouver ce Dimitri. Enfin! S'exclamait joyeusement la baronne. Les sourcils légèrement froncés, Juliette reprenait. Mais j'y mets une condition. Laquelle? C'est que vous allez me dire de qui je suis la fille. Mon petit, mais qu'est-ce que vous me demandez là? Du moment que votre mère, en mourant, n'a pas cru devoir vous révéler le nom de votre père, pourquoi voulez-vous que je vous confie un secret qu'elle a emporté dans sa tombe? Et pas de grands mots, je vous en prie, ripostait la désabusée. Je veux savoir. Et pourquoi? Mais pour me venger. Mais vous venger, mais de qui? Mais de celui qui m'a abandonné. Mais c'est impossible. C'est vous qui le dites. Bien, je vais tout de suite vous en donner raison. Votre père a été tué pendant la guerre. Ah, il a été tué? Répéta la môme aux yeux bleus d'un air morne. Elle se tut un instant, comme si cette nouvelle la déroutait plus qu'elle ne l'attristait. Puis elle reprit. Il était officier? Oui, officier de carrière. Quel grade? Général. Il était noble? Oui, tout ce qu'il y a de plus noble. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé quand je vous disais que j'avais du sang d'aristocrate dans les veines. Une flamme s'alluma dans le regard de la jeune femme qui fit aussitôt. Il était riche, très riche sans doute. Non, sa fortune était assez médiocre. Mais en tout cas, ce n'était pas une raison pour m'abandonner moralement comme il l'a fait. Bien, il était marié. Ah oui, très bien. Et sans doute avait-il des enfants. Oui, une fille. Plus jeune ou plus âgée que moi? À peu près du même âge. Ah, ce qui vaut à dire que mon père conduisait à double guide. Et cynique, mauvaise, elle grouilla. Oh, ce va être un joli monsieur. Non, déclarait la baronne, c'était un homme léger, superficiel. Son histoire est celle de tous les hommes qui ont deux ménages, l'un officiel, l'autre irrégulier. Fatalement, ma pauvre petite, c'était vous qui deviez être sacrifiée. Mais pourquoi donc, se révoltait Juliette, est-ce moi qui ai demandé à venir au monde? Non. Alors il a fallu que je supporte l'erreur des autres, ou plutôt d'un autre, car je n'incrimine pas ma mère. Vous l'avez connue aussi bien et peut-être mieux que moi. C'était une femme qui avait dû être très jolie. Elle était très douce, très bonne, sans défense. Elle avait si peu de santé et moins de volonté encore. Elle s'est certainement laissée dominer par le grand seigneur galonné qui était son séducteur et qui l'aura menacée si elle parlait de lui couper les vivres. Oh, ce n'est pas tout à fait exact, insinuait la prêteuse à gages d'un ton plein d'hypocrite réticence. Oui, mais cela, c'est cela tout de même, s'écriait nerveusement la môme aux yeux bleus. Voilà bien la vie telle que la comprennent les gens du monde. Il était bien pensant, n'est-ce pas, mon père? Il avait les principes, il les étalait au grand jour. Il avait sans cesse à la bouche les mots d'honneur, de religion, de patrie, de devoir, de sacrifice. Il ne rougissait pas à la pensée qu'il y avait de par le monde un être abandonné qui était son sang et sa chair, une fillette qui avait grandi sans appui, sans direction, poussant comme une herbe folle au milieu des pavés sur lesquels il l'avait jetée. Il est mort, oui, c'est entendu, il est mort un héros. On a dû lui élever quelque part un monument. En tout cas, il y a une tombe sur laquelle au moins sa femme et sa fille peuvent venir de temps en temps déposer quelques fleurs. Son souvenir est honoré. On doit le donner en exemple aux générations futures et personne ne sait qu'il a une fille qui est devenue par sa faute une grue, une sale grue, qui vend son corps au premier qui passe pour pouvoir manger un peu de pain et boire beaucoup d'alcool. « Juliette !» s'écria Madame Merlot. « Je vous en prie, calmez-vous. Ce n'est pas au moment où je vais vous retirer de l'abîme où j'en conviens, votre père vous a fait le choix, qu'il faut vous laisser aller à de pareilles pensées. Je saurais trop vous le répéter. Mieux vaut oublier tout et ne pas vous attarder à des rancunes qui ne pourraient que vous aigrir davantage et vous empêcheraient de savourer toutes les joies qui vous attendent. Non, non, scandait Juliette, je vous l'ai dit, je veux me venger. Je m'étais toujours promis, si jamais un jour je m'évadais de ma misère, de retrouver celui qui avait causé ma déchéance, ainsi que la mort de ma mère. Car vous pourrez m'affirmer le contraire, mais vous ne me convaincrez pas. La pauvre femme est morte de consomption, de chagrin, de détresse morale, et dans l'épouvante de ce que j'allais devenir. Vous venez de me dire aussi, votre père est mort, donc votre vengeance ne peut s'exercer. Il n'y a pas que lui à qui j'ai le droit d'en vouloir. Vous m'avez appris qu'il avait une femme, une fille. Oui, j'ai eu tort. Enfin, vous me l'avez dit tout de même. Oui, je le reconnais. Eh bien, cette femme, cette fille, je veux m'en venger sur elles deux de tout ce que j'ai souffert. Je veux qu'à leur tour, elles apprennent ce que c'est que pleurer. Mais pleurer de vraies larmes, des larmes de désespoir, de douleur et de honte. Pourtant, observait l'entremetteuse, vous n'étiez pas méchante. Non, mais je le suis devenue. Et, se campant devant l'envoyé de Jack Sorrett, la môme aux yeux bleus martela. Donnez-moi le nom que je vous ai demandé, avec tous les renseignements dont j'ai besoin, et je vous suis, je vous le promets. Je m'engage même à faire tout ce que vous voudrez. Mais le nom, je n'en démordrai pas. Au fond, la baronne Merlot se réjouissait vivement de la tournure qu'avait pris l'entretien. Maintenant, elle en était sûre. Non seulement Juliette allait accepter, avec un enthousiasme frénétique et sauvage, de jouer le rôle, d'accord avec le milliardaire américain, qu'elle avait résolu de lui distribuer dans l'abominable comédie qu'elle préparait dans l'ombre. Mais elle était d'un naturel beaucoup trop astucieux pour démasquer si rapidement ses batteries. Elle se rendait compte qu'avec une femme telle que Juliette, il fallait se montrer à la fois très prudente et très audacieuse, car avec un tel tempérament et une telle nature, on était en droit de s'attendre aux réactions les plus violentes et les plus diverses. Aussi reprit-elle en feignant un vif émoi. Ma chère enfant, je vous en prie une dernière fois, réfléchissez à vous engager dans une pareille histoire. Certes, je comprends combien vous devez être pleine de rancœur et d'amertume, mais en entrant en lutte contre deux femmes qui, somme toute, ne vous ont causé qu'un préjudice involontaire et indirect, ne risquez-vous pas d'assombrir la route ensoleillée que maintenant vous êtes destiné à suivre et de semer sous vos pas, vous-même, les ronces parmi les fleurs. Le nom, insistait Juliette en frappant du pied. Si vous ne me donnez pas, c'est bien simple, je m'en vais. je retourne au Kalisbar, je me replonge dans la fange jusqu'à ce que j'en crève. Eh bien, décida la baronne Merlou, puisque vous m'y contraignez, je vais tout vous dire. Oh, enfin, votre père s'appelait le général marquis de Montgobert. Un beau nom, ponctuait amèrement la dévoyée. Sa femme est en ce moment assez gravement malade. Elle demeure à Paris, rue du Bac. Sa fille a fait un très beau mariage. Elle a épousé le comte Henri de Préfailles, qui est le président du conseil d'administration de la Banque Delorme et compagnie. Elles sont heureuses ? Non, déclarait la prêteuse à gages. Tant mieux, appuyait la demi-folle, qu'était la fille naturelle du marquis. Et elle ajouta, l'œil mauvais, la voix sifflante. Ah, si par moi elles peuvent être plus malheureuses encore, j'en serais vraiment contente. Elles le peuvent, laissa tomber négligemment madame Merlou. Mais quoi, qu'est-ce que vous dites ? Exclama Juliette. Tout à l'heure vous me dissimuliez de me venger. Et voilà que maintenant vous abondez dans mon sens. Oui, tout à l'heure, en effet, précisait l'entremetteuse, je voulais vous éviter de vous lancer dans une aventure qui aurait pu vous occasionner des ennuis et peut-être même compromettre votre avenir. Mais je m'aperçois qu'aucune puissance humaine ne serait capable de vous faire revenir sur votre décision. J'accepte donc l'entrée dans votre vue, et je veux toujours être auprès de vous en cas de danger. J'ai une grande expérience de la vie. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert, et cette expérience acquise au prix de bien des larmes, je veux que vous puissiez en profiter. À présent que nous sommes entièrement d'accord, je puis tout vous dire. Apprenez que j'ai voué à madame de Montgobert et à sa fille une haine au moins aussi forte que celle que vous pouvez leur porter, car toutes ces souffrances auxquelles je viens de faire allusion, c'est à madame de Montgobert que je les dois. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus long. Bientôt, vous saurez toute la vérité et vous verrez que je n'ai pas exagéré. Juliette reprenait. Alors, dans ce cas, je n'éprouve plus aucune espèce d'hésitation à vous suivre et à accepter le marché que vous m'offrez. C'est entendu, demain nous partons pour Paris. Je deviens la maîtresse de ce Dimitri et alors nous aviserons toutes les deux au moyen de nous venger. Ah, madame Merlou, je suis tellement heureuse que je ne sais pas comment vous remercier. Elle se jeta dans les bras de l'entremetteuse, qui intérieurement triomphait et se disait « Ah, maintenant j'en suis sûr, je tiens la fortune, et je crois que Jacques Sorette, lui aussi, va pouvoir s'offrir le luxe de savoureuses représailles. » Chapitre 6. Le prince Dimitri. Il était 10 heures du matin. Dans la chambre à coucher de l'élégante garçonnière qui occupait le rez-de-chaussée d'un très bel immeuble de l'avenue Dello, le prince Dimitri, vêtu d'un élégant pyjama de soie à ramages et à demi étendu sur un divan, parcourait machinalement les journaux du matin tout en grillant des cigarettes au parfum pénétrant. C'était un homme de 30 à 35 ans environ, de la haute stature, de silhouette plutôt élégante. Le visage était plutôt rassé, les cheveux blonds, rejetés en arrière, surmontaient un front large et bien modelé. Les yeux semblaient naturellement doux et francs, le nez aquilin était d'un dessin très pur, et seule la bouche s'entrouvrait en un sourire mystérieux et même quelque peu inquiétant. Tel était le personnage dont nous avons entendu la baronne Merlou faire à Juliette un si pompeux éloge. Nous allons voir tout de suite, d'ailleurs, s'il était exact qu'il fût éperdument amoureux de la môme aux yeux bleus, et surtout s'il possédait une fortune aussi considérable que celle que lui attribuait la messagère de Jacques Sorel. En effet, une sonnerie de téléphone retentissait bientôt dans la pièce. Le prince n'eut qu'à allonger le bras pour s'emparer du récepteur du téléphone qui se trouvait placé sur une petite table à portée de sa main. À peine avait-il approché l'oreille du récepteur que son sourire s'accentua et que sa physionomie prit une expression de satisfaction très vive. Il fit, avec l'accent un peu traînant des Slaves, « Oh, je suis content, je suis très content de ce que vous me dites, chère baronne. Alors cet enfant est là, chez vous, et prêt au sacrifice. Très bien, entendu. Je serai chez vous à 17 h pour prendre le thé. Oui, très fort, comme d'habitude. Allô, allô, vous m'entendez bien ? Oui, mais je crois qu'auparavant, il serait indispensable que nous eussions un entretien confidentiel, que vous m'expliquiez très nettement le rôle que j'ai à jouer auprès de cette môme aux yeux bleus. Il ne faut pas que je fasse des gaffes et j'ai besoin d'avoir quelques renseignements en plus de ce que vous m'avez donné. Parfait, bon, mais je ne voudrais pas vous déranger. Je sais que vous êtes très matinal, mais je ne voudrais pas vous imposer l'obligation de venir jusqu'ici. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer ailleurs. Vous préférez ici, eh bien, soit, cher baron, je vous attends. Dans une demi-heure, parfait, tous mes hommages. Dimitri raccrocha le récepteur, s'enfuit vers la cheminée et appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Presque aussitôt, une porte s'ouvrit, laissant apparaître une sorte de géant qui avait toutes les allures d'un ancien cosaque. « Mikhailitch, fit aussitôt le prince, prépare-moi mon complet bleu marine. » Le valet de chambre se contenta d'un léger signe de tête et se retira. Le prince termina sa cigarette et passa dans son luxueux cabinet de toilette. Aidé par Mikhailitch, qui lui semblait profondément dévoué, il commença à s'habiller. 25 minutes après, il passait dans une sorte de studio à la décoration ultramoderne et au mur desquels étaient suspendues des toiles signées du nom des fauves les plus exaspérés de la peinture moderne. Il n'attendit pas longtemps. Quelques instants après, son domestique lui annonçait la baronne Merloux, qui, plus maquillée que jamais et toute sémillante dans son costume tailleur, s'avança vers lui en disant « Je suis contente de vous revoir. Tout a bien réussi et je crois que l'un comme l'autre, nous allons avoir toute raison d'en être enchantés. » « Asseyez-vous donc, baronne, » invitait le russe, en indiquant à la visiteuse un siège qui semblait avoir été taillé dans un bloc de pierre et que seuls des coussins aux couleurs hurlantes pouvaient rendre acceptable. La prêteuse s'y installa et attaqua aussitôt. Et ainsi que je vous ai téléphoné tout à l'heure, la môme aux yeux bleus est chez moi. Je commence par vous dire que ça va être une véritable fête de vous connaître. Je suis d'ailleurs absolument persuadé que lorsqu'elle vous verra, elle sera encore plus ravie d'avoir écouté mes conseils. « Baronne, répliquait le prince, je suis très flatté de la bonne opinion que vous avez de moi. »« Une opinion très justifiée. Et je vous suis très reconnaissant du grand service que vous m'avez rendu en me priant de jouer un rôle aussi important que bien rémunéré dans la pièce très parisienne dont vous êtes l'auteur. » Ben, si vous voulez téléphoner tout à l'heure, si vous voulez que je fasse honneur à mon personnage, il est indispensable que je sois fixé dès à présent sur certains points qui m'échappent. Et voilà pourquoi je vous demande la permission de vous poser quelques questions. Très aimablement, la baronne Merloux répondait. Je suis là pour vous écouter d'abord et pour vous répondre ensuite. Vous m'avez fait savoir, reprenait le russe, que cette Juliette n'était autre que la sœur naturelle de la comtesse de Préfailles, dont elle est destinée à être la sosie. Oui, c'est tout à fait cela. Mais ma future bien-aimée est-elle au courant de cette parenté? Oui, parfaitement. Et je dois vous dire qu'elle n'en est que plus acharnée pour entrer dans nos vues.
C'est-elle exactement ce que nous attendons d'elle?
Non, je ne lui ai rien dit encore. C'est une nerveuse. Il s'agit de ne rien brusquer. Je compte sur votre force de persuasion pour achever, oh, non pas de la convaincre, puisque cela est fait, mais de l'éduquer, ce qui est une autre affaire.
Est-elle au courant de nos tractations avec Jack Sorel?
Non, je me suis bien gardé de lui en parler, car, pour parler franchement, je ne suis pas encore assez sûr d'elle.
Je crois que vous avez eu raison, et qu'il est absolument inutile de lui faire connaître l'homme que nous commandite dans l'opération, plutôt délicate, que nous allons entreprendre en commun.
Mais c'est ce que j'ai pensé.
Juliette se doute-t-elle que notre actuelle liaison ne peut être forcément que très éphémère?
Madame Merlot répliquait d'un air entendu. Ah non, je lui ai affirmé au contraire que c'était le bonheur parfait qu'il attendait. Je lui ai même raconté toute une histoire. Je lui ai dit que, tel le héros de Résurrection de Tolstoï, vous aviez entrepris de la régénérer.
C'est tout à fait touchant, ironisait Dimitri. Mais à vrai dire, je me sens nullement l'âme d'un apôtre, et je préfère laisser à d'autres le soin d'une pareille mission. Seulement, dites-moi, ma chère baronne, pensez-vous que la comédie dure bien longtemps?
Quelques semaines seulement, au bout desquelles, si vous trouvez la môme aux yeux bleus trop encombrante, vous pourrez reprendre votre liberté.
De même, ce que vous me dites, la demoiselle ne doit pas être d'un caractère très facile. Et j'imagine que la rupture n'ira pas sans pleurs ni grincement de dents.
Non, rassurez-vous, j'en fais mon affaire. Du jour où nous aurons accompli la tâche que nous a confiée Jacques Sorette et que nous aurons touché la part que nous reviendra à chacun, je vous garantis que, si, comme cela est infiniment probable, vous voulez vous séparer de votre conquête, je serai là pour que les choses se passent le plus gentiment du monde. Et je m'engage d'avance envers vous à ce que vous n'entendiez plus jamais parler d'elle.
Alors, tout va bien. Maintenant, si vous voulez, nous allons passer aux détails. Vous avez la parole, chère baronne. Je vous écoute avec le plus grande attention, car étant donné que vous êtes beaucoup plus forte que moi en ce genre de sport, je tiens à vous déclarer que je suis prêt à suivre aveuglément toutes vos directives, certain que vous m'en donnerez qu'une excellente.
Je vais faire de mon mieux, déclarait Madame Merlot avec un accent de fausse modestie. Voici, selon moi, comment il faut procéder. Tout d'abord, il faut indispensable que vous paraissiez épris à la fois cérébralement et sensuellement de la belle Juliette. Je commence par vous dire que c'est une femme superbe et, si malheureusement elle n'avait pas un passé aussi orageux et si elle ne s'était pas laissée gagner par de fâcheuses habitudes d'intempérance dont il sera bien difficile de la guérir, vous auriez eu là, mon cher prince, une maîtresse comme on n'en rencontre pas souvent. Donc, montrez-vous envers elle très amoureux. Il est indispensable qu'elle le croie et surtout qu'elle soit persuadée que vous êtes sincère.
« Oh, cela n'est rien !» affirmait le russe, qui était peut-être un né prince, mais qui, à coup sûr, avait une âme d'aventurier. Et il ajouta « Voyons la suite !»
D'accord avec Sir Jack Sorret, j'ai pensé qu'étant donné que je vous ai dépeint à Juliette sous les traits non seulement d'un prince authentique, mais encore d'un très riche seigneur, Il est peut-être préférable, si confortable que soit votre garçonnière, que vous l'emmeniez dans un endroit plus important, dans un hôtel particulier, par exemple, où elle trouverait, en même temps que le confort et le luxe, une maison entièrement montée, un service absolument complet. En attendant que je me sois procuré ce home en location, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que vous partiez dès ce soir. C'est peut-être un peu tôt, souligna le prince. Eh bien, mettons demain.
Oui, entendu, demain, et où irons-nous?
Oh, pas bien loin, à Versailles. Ou par téléphone, je puis vous retenir un appartement dans un hôtel situé près du parc et vous serez à merveille.
Excellente idée,
la baronne poursuivait. Ensuite, je vous ferai savoir ce que j'aurai décidé. En attendant, ainsi que je l'ai recommandé à Juliette, et ainsi que je vous le rappelle à vous-même, il est absolument indispensable qu'étant donné la ressemblance frappante qui existe entre Juliette et la comtesse de Brefailles, votre futur ami se cache aux yeux de tous et ne laisse apercevoir son visage que lorsque nous aurons besoin de commencer à créer l'équivoque entre elle et sa sœur.
Très bien, continuait à approuver Dimitri.
Mais la mère Lou précisait. D'ailleurs, j'ai fait la leçon à ce sujet à Juliette, et de sa part, nous n'avons rien à redouter, puisque, pour des motifs différents, elle aborde dans le même sens que nous et poursuit le même but. Moi, je ne vois plus rien à vous dire.
En effet, déclarait le Russe, nous sommes tout à fait d'accord. Et si nous manœuvrons bien, la victoire est à nous. Cependant, j'ai encore besoin de vous demander un renseignement.
Dites,
savez-vous exactement quand M. le comte de Préfaille doit rentrer à Paris?
Ah non, ça je l'ignore. Sir Jacques Sorette, en effet, ne m'a rien dit de définitif à ce sujet.
Je sais tout simplement qu'il négocie à l'aide d'un émissaire la mise en liberté du comte, qui, soi-disant, a été fait prisonnier par des dissidents et, en réalité, n'a fait que tomber dans un piège inspiré et machiné par notre Américain.
Mais soyez tranquille, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Nous serons prévenus à temps. D'après ce que Sorette m'a laissé entendre, cela ne saurait trop tarder.
Alors, tout est pour le mieux, concluait Silverstoff.
La baronne se leva, tendit la main à son interlocuteur, qui la baisa galamment et, tout en prenant congé, elle dit « À ce soir, 5 heures. »«
À ce soir. »
Elle s'en fut, reconduite par Dimitri, jusque dans l'antichambre et, lorsque le prince se retrouva seul dans son studio, accentuant encore ce sourire mauvais qui donnait à son visage une expression inquiétante et même redoutable, il fit
« Allons, je crois que cette femme, je ne serai pas obligé d'avoir recours à la police internationale pour me permettre d'aller risquer quelques billets à Monte-Carlo. »
Transportons-nous maintenant dans le salon de la baronne Merlou, où nous avons déjà assisté à l'entrevue de cette dernière avec Jack Sorette. Cette fois, c'est Juliette qui est assise à la place qu'occupait le milliardaire américain. Elle porte une toilette très simple qui lui sied à ravir et qui lui donne une allure très distinguée. La transformation est complète. Jamais on ne reconnaîtrait en elle la fille du bar qu'elle était il y a encore quelques jours. Madame Merlou, qui ne cache pas la satisfaction de voir la môme aux yeux bleus aussi radicalement et heureusement changée, est assise devant elle. Le contraste entre ces deux femmes est d'autant plus piquant que la prêteuse à gages, qui ne se distingue pas précisément par son bon goût, a cru devoir s'affubler d'une toilette des plus tapageuses qui la fait ressembler à une boîte d'échantillons vivants. D'un ton mielleux, elle roucoule. Ma chère petite, vous ne pouvez vous imaginer combien je suis heureuse de vous voir aussi belle et surtout de ne plus découvrir dans vos yeux cette tristesse qui me faisait vraiment de la peine. Je crois inutile de vous faire de nouvelles recommandations. Je ne vous cacherai pas cependant que je suis un peu ému, pourvu que le prince vous plaise. Oh, il me plaira certainement, affirma la fille naturelle du général de Montgobert. D'abord parce que ce doit être un homme très chic, et puis par-dessus tout, parce qu'il va me servir à me venger. Vous avez eu raison de me dire la vérité. Maintenant, je sais où je vais, et quand bien même cette liaison que vous m'avez ménagée devrait être éphémère. Oh, mais je vous ai jamais dit cela, mon enfant, protestait la baronne. En effet, reconnaissait Juliette, mais j'ai eu jusqu'ici si peu de chance dans la vie, et j'ai tellement l'impression, ainsi qu'on le dit communément, que je suis née sous une mauvaise étoile, que je ne serais pas autrement surprise si ce prince Dimitri ne me laissait un jour retomber dans la misère et dans la honte. Mais il ne faut pas être sceptique à ce point. Je vous assure que le prince est très sincère. C'est mieux qu'un poète, c'est un apôtre. Madame Merlou, reprenait la jeune femme avec cet air désabusé qu'elle avait perdu depuis sa rencontre à Nice avec l'entremetteuse. Qu'y a-t-il, ma chère enfant? Interrogeait la baronne un peu inquiète. D'un ton bref, ironique, la môme aux yeux bleus scandait. Et si nous jouons franc jeu, carte sur table? Que voulez-vous dire? Faisait semblant de s'étonner Madame Merlou. Juliette poursuivant. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour me forger toute cette histoire de résurrection, de mission, d'apostolat. En un mot, pour me faire monter dans un bateau dont vous teniez le gouvernail en même temps que vous dirigiez la voile. Eh bien, j'aime mieux vous le dire carrément. Pas un instant je me suis laissé prendre à votre jeu. Je savais très bien que vous aviez une idée de derrière la tête, et ce que vous me proposiez sous le couvert d'une idylle aussi invraisemblable qu'inattendue, n'était qu'une affaire dans laquelle vous aviez un intérêt personnel assez important. Mais tout d'abord, je me suis dit, oh, elle a besoin d'acheter une femme, elle pense que je suis à vendre, et voilà. J'étais donc tout à fait décidé à ne pas vous écouter et encore moins vous suivre. Voilà pourquoi j'ai tant insisté pour savoir le nom de mon père. Vous avez bien fait de me le dire. Car si vous aviez gardé le silence, je serais encore là-bas, à Nice, à m'enivrer au Kalzigbar ou à pleurer sur un bord de la promenade des Anglais. D'ailleurs, vous êtes assez fine pour vous en être aperçue. Ce n'est ni l'espoir d'une de meilleure existence, ni la volonté de me relever de ma déchéance qui m'ont fait agir. C'est uniquement parce que je voulais et que je veux de plus en plus me venger. Il se trouve donc que nos intérêts sont communs dans cette affaire qui se résume en ceci: me faire passer pour la comtesse de Préfailles afin de la perdre à tout jamais de réputation, c'est tout. Nous nous comprenons? N'en parlons plus, puisque j'ai accepté de jouer le rôle. Et avec quelle joie, quelles que soient les conséquences qui puissent en résulter pour moi. Mais je vous en prie, Madame Merlou, plus de sentimentalité, plus de résurrection, plus de Tolstoï. Je vous demanderai même de faire comprendre à votre prince Dimitri qu'il n'a pas besoin de se livrer devant moi à des manifestations absolument ridicules. Car je suppose qu'il est de mèche avec vous, et que je vais me trouver non pas en face d'un grand seigneur moscovite qui a eu la bonne chance de conserver sa fortune, mais d'un aventurier que vous avez réussi à faire entrer dans votre jeu. C'est bien cela, n'est-ce pas? Parbleu, mais j'en étais sûr. consterné de voir ainsi son plan percé à jour par celle qui devait en assurer l'exécution, la baronne s'écriait « Mais ma chère Juliette, ne me faites pas dire des choses que je ne pense pas, qui sont inexactes. » « Allons, allons !» ricanait l'habitué du colis-bar, qui peu à peu avait repris ses allures de fille. « Je vous répète que vos boniments ne prennent pas, et que vous avez tort de me considérer comme une imbécile, d'autant plus que vous n'avez rien à craindre de moi. Surtout, n'allez pas vous figurer qu'une fois que je me serai bien vengé, je chercherai à vous faire chanter, ou je vous en donnerai même des comptes. Ah, non, 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 je n'exigerai même pas de vous ni du prince l'indemnité de déplacement que je serais en droit de vous réclamer. Je m'en irai, où, seul je le sais. » Et d'un air sombre, elle ajouta, « Tout ce que je puis vous dire, c'est que vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ma petite Juliette, il ne faut ni parler ni penser ainsi, s'évertuait l'entremetteuse. Je vous ai promis que vous seriez heureuse, vous le serez. » Oui, accentua la môme aux yeux bleus, d'un air farouche, oui, je serai heureuse, si je suis vengée. En ce moment, tout ce qu'il y avait d'amertume en elle se lisait sur sa figure contractée. Dans ses yeux, il y avait une lueur mauvaise qui s'inspirait de tout le désir qu'elle avait de détruire et de faire souffrir à son tour. Cela rassura Madame Merlou. En somme, elle préférait que la situation fût nette, car ainsi elle n'avait rien à redouter, ni pour le présent, ni pour l'avenir. La femme de chambre avançait. « Le prince Dimitri Tirzestov. » Le russe apparut, revêtu d'un complet jaquette des plus élégants. Immédiatement, l'entremetteuse s'enfuit vers lui et, lui tendant la main, lui dit « Je vous présente mon amie Juliette. » Le prince et la môme aux yeux bleus échangèrent un premier regard. Il leur suffit pour se comprendre. Lui se dit « La belle fille !» Et elle pensa « Le beau mufle !» Mais d'avance, ils avaient parti liés. Le désir de l'un ne pouvait se choquer au mépris de l'autre, tant ils avaient accepté de s'entendre. Seulement, afin d'éviter toute espèce de malentendu, désireuse de placer avant tout la question sur son vrai terrain, Juliette attaqua. « Je suis très heureuse, prince, d'être mise en rapport en direct avec mon partenaire dans la comédie que nous allons jouer. » À ces mots, Dimitri, visiblement interloqué, répliquait « Mademoiselle, je ne saisis pas très bien le sens de vos paroles, mais ce que je tiens à vous dire avant tout, c'est combien je suis ému. » Tout en souriant d'un air un peu ironique, Juliette interrompait. « Inutile, mon cher prince, de continuer sur ce ton. Je viens d'avoir avec notre amie commune une explication décisive qui met nettement les choses au point et nous préserve de toute espèce de contrainte qui pourrait devenir gênante entre nous. Nous avons parti liés tous les trois, jouons-la sans masque, cela est préférable. » D'un léger signe de tête, la prêteuse à gages fit comprendre aux Russes qu'il était inutile d'insister et que Juliette n'était pas dupe de l'histoire qu'elle avait cru devoir lui raconter. Dimitri n'en parut nullement mécontent. Bien au contraire, et tout de suite, il s'empressa de déclarer « Ce sera comme il vous plaira, mademoiselle. J'estime d'ailleurs, pour ma part, que cela simplifiera beaucoup les choses. » Et fort galamment, il ajouta « En tout cas, soyez persuadé que je mettrai tout en œuvre pour que les moments que nous devons passer ensemble ne nous soient pas trop désagréables. » Redevenue aimable et même souriante, Juliette répliquait « Oui, je suis persuadée que nous allons très bien nous entendre. En tout cas, monsieur, je tiens à vous dire que de mon côté, je m'efforcerai d'être pour vous une compagne à laquelle il vaut mieux ne pas s'attacher, mais qui cependant fera de son mieux pour vous laisser d'elle un bon souvenir. La porte de la salle à manger s'ouvrait à deux battants, et la femme de chambre annonçait cérémonieusement: Le thé de madame la baronne est servi. Tous trois passèrent dans la pièce voisine et s'installèrent autour de la table. Dimitri se disait: Mais la baronne n'a pas menti, cette fille est vraiment magnifique. Et il ajouta en lui-même: Qui sait? Cette peau aux yeux bleus est peut-être destinée à me rendre un jour un de très grands services. Quelle belle espionne internationale elle ferait, si toutefois elle voulait s'en donner la peine.